Et nous arrivons maintenant à une autre division de notre étude que j'ai intitulée « Ce que sont les ministères ». Et en premier lieu, il nous faut étudier, méditer sur ce que fut le ministère de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est en toute chose notre exemple. Ce que vous savez, nous dit l'Épître aux Éphésiens, je relis au chapitre 5 les versets 1 et 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, devenez les imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Il est évident que c'est là un principe fondamental pour toute l'Église et qui doit trouver son application a fortiori dans l'exercice des ministères. Comment la vie chrétienne pourrait-elle être guidée par ce principe et l'exercice du ministère ne le serait pas? C'est quelque chose que l'on ne pourrait pas admettre. Donc, a fortiori, l'exercice du ministère doit être conduit par ce principe, imitation, soyez les imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Voyons alors selon quelle résolution le Seigneur a accompli son ministère, car en effet, il nous les a fait connaître, ces résolutions. Il ne nous a pas cachés, il a bien mis en lumière très exactement et très simplement ce qu'étaient ses résolutions. Il était là dans son humanité, voyons-le dans son humanité, c'est dans son humanité que se prépare la rédemption. L'humanité de Jésus est le creuset dans lequel va s'élaborer par la souffrance, la victoire, l'obéissance et l'expiation, c'est dans cette humanité que va s'élaborer la rédemption, c'est-à-dire le rachat de l'humanité. Alors, voyons-le dans les résolutions qu'il a prises et qu'il ne nous a pas cachées. En tant surtout qu'apôtre, il nous est demandé dans les Hébreux de considérer l'apôtre. Il est apôtre, le Seigneur, l'apôtre, que prophète, qu'évangéliste, que pasteur et que docteur. Apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 1er, nous lisons « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Là, ensuite, une supériorité sur Moïse lui est donnée parce que la maison, c'est la sienne. Mais nous considérons donc l'apôtre, selon l'étymologie du terme, l'envoyé. Apôtre signifie envoyé. Le Seigneur Jésus a mis un accent particulier sur cela. Sur le fait qu'il a été envoyé de Dieu. Il a attaché à ce fait une importance de premier ordre. Son expression habituelle dans beaucoup de ses paroles était « celui qui m'a envoyé ». Par exemple, dans Jean 4 et verset 34, dans son entretien avec la Samaritaine, « ma nourriture », et puis ses apôtres ensuite, « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 5, 7, et puis d'autres passages, « le Père qui m'a envoyé », toujours cet accent mis sur le fait que Jésus est l'envoyé du Père. Et alors, lorsque nous arrivons à, pour ainsi dire, la fin du ministère terrestre de Jésus, alors là, nous découvrons quelque chose qui nous explique pourquoi le Seigneur Jésus a tant insisté sur le fait qu'il était envoyé du Père. Dans Jean, chapitre 17, oui. Je vais même lire d'abord dans chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, à maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient. En quelque sorte, on pourrait amplifier un peu cette réponse de Jésus et lui donner cette tournure. Enfin, ça y est, vous y êtes arrivés. Enfin, ça y est, maintenant, vous croyez. On ne veut pas trop ajouter là-dessus, mais enfin, ça a été long d'amener les apôtres, à l'exception de Pierre, qui avait eu, lui, cette révélation d'en haut, quand Jésus avait demandé à ses apôtres qui il était. Et Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Révélation qui lui avait été donnée. Mais à l'exception de cette révélation, Pierre donc a connu plus tôt, il n'est pas du tout assuré qu'il ait beaucoup retenu ce qu'il avait dit, pas même du tout, puisque après avoir dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, entendant le Seigneur, annoncer ses souffrances et sa mort, Pierre lui dira, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, penses-tu, nous t'aimons trop, sommes trop attachés à toi, toi tu es le Fils de Dieu, comment, pareille chose, mourir, souffrir, c'est pas pour toi, c'est pas ça, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, et tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, mais des paroles d'homme. Donc Pierre avait bien prononcé, on pourrait dire maintenant prophétiquement, la vérité sur le Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais ça ne s'était pas fixé en lui. Et maintenant, là, à la fin du ministère, les apôtres croient. Et l'on peut dire que c'est le point d'orgue sur leur conversion. Ça nous intéresse parce que moi personnellement je m'en suis servi de cela et il m'est arrivé de pousser l'annonce de l'Évangile, l'enseignement, jusqu'à ce que certaines personnes confessent que Jésus-Christ est bien sorti de Dieu, qu'il avait été envoyé de Dieu. Il y a là une confession, un point de confession qui est de première importance. C'est, il ne faut pas que, vous savez, la conversion soit établie sur une conviction intellectuelle, hein, mais pas sur une conviction intellectuelle. Il y a des choses à confesser. Il ne s'agit pas de les expliquer, de les raisonner. Elles sont à confesser, ces choses. Confesser du cœur, il faut les confesser, et c'est ce que nous demande le Seigneur. Donc, ils ont cru que tu m'as envoyé, au chapitre 17, alors, verset 8, Jésus reprend cela dans sa prière sacerdotale, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Donc, ils sont bien convertis, ils ont reçu les paroles. Bon, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voyez, comme là, c'est important dans la pensée du Seigneur, bah, ils ont reçu les paroles, c'est bien, et ils ont vraiment cru que je suis sorti de toi et cru que tu m'as envoyé. Et arriver à ce que ce point, cet objet particulier de la foi puisse être confessé chez quelqu'un, chers amis, je vous conseille, quand vous travaillez une âme, n'est-ce pas, en vue de sa conversion, et que vous voyez que les choses avancent, se présente bien, alors là, d'arriver à cette confession-là. Alors là, vous avez une sécurité, une bonne sécurité. Le Seigneur Jésus est donc celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, cela est dit dans Jean 10, 26, le Père l'a sanctifié, l'a mis à part et l'a envoyé dans le monde. Jésus, en somme, est un pionnier. Il appelle à le suivre et il rassemble. Nous avons là les caractères dominants du ministère d'apôtre, que nous reverrons après. Voyons Jésus comme prophète. Il nous est dit que Jésus était puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Et puis, l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 1er, versets 1 et 2, nous déclare que Dieu nous a dans les premiers temps parlé par ses serviteurs, les prophètes, et dans la fin des temps, il nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Ainsi donc, Jésus apparaît bien aussi dans sa fonction, son office de prophète. Dans le Deutéronome aussi, le Deutéronome, n'ayons pas peur de consulter l'Ancien Testament, puisque Jésus l'a si bien utilisé devant les... devant les deux disciples d'Emmaüs. Ici, Deutéronome 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, comme Moïse, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Là, c'est une prophétie, une annonce de Dieu qui concerne le Seigneur Jésus, un prophète comme toi. En quoi le Seigneur Jésus ressemble-t-il à Moïse? Eh bien, en ce que il ne sera pas extérieurement plus redoutable que Moïse. Il sera homme comme Moïse, il se présentera comme un homme comme Moïse. Mais ne poussons pas le parallèle trop loin. parce qu'il y a quand même, n'est-ce pas, une différence qui est marquée dans le chapitre 3 des Hébreux entre Moïse et Jésus-Christ, évidemment. Mais un prophète comme toi, pas plus redoutable que toi, c'est surtout là l'idée qui est dans le Deutéronome, pas plus redoutable que toi, un prophète comme toi. C'est pas Dieu qui va venir dans un, comme il s'est manifesté sur le Sinaï, non. Donc, il viendra comme toi, il se présentera au peuple comme toi aussi, tu t'es présenté devant le peuple. Souvent, la foule regardait Jésus comme le prophète attendu. Et en effet, nous avons certaines proclamations. Il y a une sélection qui est possible et qui est intéressante à faire dans les déclarations de Jésus. Je vous dis ça un petit peu en forme de digression maintenant. Il y a des déclarations de Jésus qui sont de véritables proclamations. Et là, dans l'humanité de Jésus, en somme, se met au service de la divinité de Jésus. Certains moments. Et en général, ces proclamations commencent par Amen, Amen. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. On peut dire que ça dépasse même le ministère du prophète. Puis il y a d'autres proclamations qui ont le caractère prophétique, c'est-à-dire que ils peuvent être rapprochés la manière des prophètes d'autrefois. Dans Luc 13, verset 34, nous entendons Jésus ici, qui est devant Jérusalem, dire « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Là nous avons une prophétie du Seigneur. Nous voyons également Jésus-Christ dans sa fonction de pasteur. En effet, Jean 10, le chapitre 10 de Jean, là, nous avons des déclarations du Seigneur même, qui se présente comme le bon berger donnant sa vie pour les brebis. Le bon berger, c'est-à-dire le pasteur des brebis. Souverain, Jésus est appelé dans Pierre, 1 Pierre 5-4, le souverain berger. Le terme de pasteur, c'est une traduction de berger. Dans Matthieu 14, il est noté que Jésus est ému de compassion pour la foule qui le suit. Voilà un des caractères de la charge de pasteur. Il est ému de compassion pour la foule qui le suit. Voyons maintenant le Seigneur dans les caractères du ministère de docteur. Dans plusieurs mentions, nous avons cette information que Jésus enseignait. Jésus enseignait et même comme ayant autorité. Marc 1, 22, par exemple, Jésus enseignait comme ayant autorité. À Jérusalem, il enseignait dans le temple. Marc 12, 35. Donc, Jésus aussi a largement enseigné. Avant même le sermon sur la montagne qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu et qui est la véritable charte de l'Église. On l'a appelé ainsi, mais ça n'est pas inexact, loin de là, une véritable charte. Eh bien, avant, là, il avait enseigné beaucoup de choses. Il avait enseigné. Jésus a largement enseigné. Maintenant, nous allons considérer le ministère de Jésus, non pas seulement sous la spécificité de prophète, d'apôtre, de pasteur ou de docteur, mais nous allons le considérer comme nous apportant maintenant toujours un exemple, ce que nous avons dit au commencement, marcher à l'exemple de Dieu, à l'exemple de Christ. Alors, nous nous posons cette question, mais comment Jésus a-t-il marché? Comment s'est-il comporté? Comment a-t-il avancé dans le temps qui lui était prescrit pour exercer son ministère? Comment, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui étaient inclus dans son temps de ministère, comment a-t-il exercé son ministère, selon quels principes, selon quelle résolution, j'ai employé le mot, quelle résolution personnelle il s'était donnée? Eh bien, nous voyons apparaître trois grandes résolutions, si vous voulez, que nous allons voir l'une après l'autre, pour l'exercice, donc, du ministère de Jésus. Et bien entendu, ces principes ne sont pas à laisser dans une particularité accordée au Seigneur Jésus. Ces principes, pour que nous marchions nous-mêmes à l'exemple de Christ, ces principes, nous devons les considérer pour nous. Alors, je parle de ministère, mais je parle aussi de l'exercice des dons. Là, j'anticipe un peu sur la suite, mais l'exercice des dons, tout le monde n'est pas appelé au ministère, mais s'il n'y a pas de ministère, il y a des dons. Il y a en tout cas la fonction. J'emploie ce terme, j'emprunte ce terme à Romains 12, il y a la fonction qui doit être générale à tous les membres de l'Église, la fonction de témoin. Et quel témoin? Un témoin de Jésus. Je pense qu'il serait bon qu'on s'habitue à retenir cette expression qui est dans l'Apocalypse, témoin de Jésus. Alors, par conséquent, cela nous intéresse, ça, tout le monde, même en dehors de l'exercice des ministères. L'exercice des ministères devrait se faire selon ces mêmes principes, ces mêmes trois principes que nous allons voir, mais, de toute manière, chacun de nous, comme membre de l'Église, doit aussi les adopter pour sa propre action. Vous savez que nous n'avons pas la possibilité d'être neutre. Nous ne pouvons pas avoir reçu du maître un talent, je ne veux pas dire une capacité, un don, un art, je veux dire un poids d'argent. Nous avons reçu une part de la rédemption du Seigneur, de l'œuvre de la rédemption à mettre en valeur. La mise en valeur, nous sommes chargés de la mise en valeur, eh bien nous en avons reçu un seulement, vous savez, ce serviteur qui n'a reçu qu'un talent, qui est allé le cacher, et puis le Seigneur étant de retour, il le reprend, le présente, voilà Seigneur, tu m'as donné un talent, je te le rapporte, moi je l'ai pas dilapidé, je l'ai pas perdu, il est intact, seulement voilà, il n'a pas produit. Pour telle et telle raison. Bon, eh bien là, ce serviteur est appelé serviteur méchant et paresseux, et toutes les paroles qui sont dites à son sujet ne sont pas du tout rassurantes. Nous n'avons donc pas le droit d'être inactifs. Comme dit Pierre, il ne faut pas que nous soyons oisifs. Nous n'avons pas le droit. aucun chrétien n'a le droit. Nous traitons des ministères, je le répète, et nous traitons aussi des dons spirituels. Et chacun doit avoir reçu quelque chose. Ça, c'est voilà un sujet de méditation personnelle, de prière, de recherche, si nous ne sommes pas encore instruits du don que nous avons reçu. Il faut le connaître, ce don. Il faut qu'il soit connu, il faut qu'il soit exercé. En tout cas, je le redis, n'est-ce pas, nous sommes tous, sans exception, des témoins. Il faut que nous ayons fait valoir, même si c'est un petit peu, même si nous avons eu aller chez le banquier, avoir recours au banquier, comme dit le Seigneur dans sa parabole des talents, avoir recours au banquier, c'est-à-dire, en somme, être allé vers les autres, vers l'Église, en disant moi tout seul, je peux absolument rien faire. Je peux rien faire, je sais pas, je peux pas, j'ai trop peu, moi, mais je me mets à la disposition des autres, je me mets à la disposition de ceux qui exercent les ministères dans l'Église, je suis à leur disposition pour faire quelque chose. Voilà, au moins cela. Alors, les trois principes selon lesquels le ministère du Seigneur Jésus a été accompli, les voici. Le premier principe est celui-ci. Jésus ne fait rien pour lui-même. Rien pour lui-même. Ce n'est pas lui qui va se paître lui-même. Il ne fait rien pour lui-même. Il refuse, par exemple, de changer les pierres en pain, bien qu'il ait eu faim, au moment, après 40 jours de tentation dans le désert, Satan lui dit, toi, tu es le Fils de Dieu, mais change donc ces pierres en pain, et tu vas satisfaire ta faim. Il refuse, c'est faire quelque chose pour lui-même, il ne veut pas cela. Il refuse aussi de se laisser faire roi. Dans Jean 6, 14, 15, la foule est enthousiasmée à un certain moment, et on voulait se saisir carrément, le prendre, n'est-ce pas, de force, et puis l'emmener, on l'aurait couronné, je ne sais pas comment ils auraient fait, ils voulaient le faire roi. Il se dérobe, il s'enfuit, il refuse. Il ne peut être choisi et investi de l'autorité royale, parce que l'autorité royale lui revient, mais il ne peut en être investi par des hommes. Et ça, c'est dans le principe, premier principe que j'ai appelé, il ne fait rien pour lui-même. Il ne veut pas, par conséquent, que des hommes l'investissent, ce serait pour lui. Ce serait à son avantage, il ne veut pas. Et il dira d'ailleurs à ses apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je ne vous dois rien, je ne dois rien du tout, vous ne m'avez rien procuré, avant même que l'apôtre Paul n'écrive sa lettre aux Philippiens, où cet apôtre dit que il regarde même maintenant toute chose comme de la boue afin de l'excellence de Christ, même de tout ce qui pourrait constituer pour lui avantage, tout ce qui pourrait avoir un intérêt pour lui-même, il le regarde comme de la boue, mais le Seigneur Jésus l'a fait bien avant lui. Il refuse tous avantages terrestres. Et on peut dire que si Jésus avait accepté la royauté, par exemple, ou bien de Satan qui voulait la lui donner, Satan lui disant, mais ne sais-tu pas que tous les royaumes qui sont là, sous le ciel, m'appartiennent, et moi je peux te les donner. Il proposait en somme à Jésus de faire l'économie de la croix. Je vais te les donner, moi c'est pas la peine que tu passes par tout ce chemin pour arriver à régner, je sais bien que tu viens pour régner, moi je vais te faire régner, tout de suite, hein, seulement il va falloir une petite condition, il va falloir que tu me reconnaisses comme ton Dieu. Eh bien, Jésus donc refuse tout cela. Sa position est de ne recevoir que de Dieu. Ne recevoir que de Dieu. en refusant la royauté que la foule voulait lui donner, eh bien, Jésus a sauvegardé la royauté éternelle. Il aurait tout perdu s'il avait accepté quelque chose. Ainsi donc, Jésus ne fait rien
pour lui-même.
Tout comme l'apôtre Paul le déclare pour lui dans les Philippiens. Deuxième principe du ministère de Jésus, il ne veut rien faire par lui-même. Tout à l'heure, c'était pour lui-même, maintenant c'est par lui-même. C'est-à-dire, il veut être exclusivement l'exécuteur des œuvres du Père. Alors cela, nous allons le considérer dans quelques citations prises dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 38, d'abord. « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans le chapitre 7 et au verset 16 et 16 à 18, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Vous savez que ça, c'est quelque chose que nous pouvons nous appliquer, et qu'il faut nous appliquer. Quelle gloire cherchons-nous? Quelle est la gloire que nous cherchons? Cherchons-nous une gloire? Oui, mais celle de Dieu, exclusivement. Et pour être dans cette exclusivité de la recherche de Dieu, il faut savoir à certains moments énergiquement écarter de soi certaines choses, certaines propositions. Il faut y veiller. Ça ne se fait pas toujours tout seul, cela. Il y a en nous toujours cette nature humaine qui est prête, elle, à prendre, à saisir tout ce qui se présente. Il ne veut rien faire par lui-même. Au chapitre 9, verset 3 et 4, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Et puis, Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc c'était le deuxième principe, il ne veut rien faire par lui-même. Et le troisième principe est celui-ci, il ne veut rien faire de lui-même. La première fois, c'était pour lui-même, la seconde fois, par lui-même, et maintenant, de lui-même. Il y a une nuance que nous allons voir apparaître. C'est-à-dire, il ne veut rien faire en utilisant ses propres moyens humains, en suivant ses propres initiatives. Il ne veut pas, il se refuse à ça. Prenons Jean toujours, où nous avons justement toutes les résolutions du Seigneur, Jean 5, versets 19 et 20. « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Voyez-vous, ça c'est extraordinaire. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous aurions, mettons, été aux côtés du Seigneur, entendant cela, nous aurions pu peut-être nous hasarder à lui dire, « Mais Seigneur, voyons, nous te reconnaissons comme le Fils de Dieu, tu es envoyé de Dieu, tu as des possibilités extraordinaires. Pourquoi dis-tu que tu ne peux rien faire de toi-même? Nous croyons que tu peux faire beaucoup de choses toi-même. Et là, il nous aurait repris, il nous aurait dit non. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ça, c'est un principe excessivement strict de l'exercice du ministère, toujours maintenant. Et il n'est pas facile, faut bien l'avouer, il n'est pas si facile que cela à mettre en pratique d'une façon régulière. Au chapitre 5 toujours et au verset 30, Jésus réitère. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même, je ne puis rien faire de moi-même, rien. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Et nous avons encore d'autres déclarations. Chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alors c'est net, c'est clair, n'est-ce pas? Il y a encore d'autres passages, mais ceux-là nous suffisent. Alors, nous avons ces trois principes. Jésus ne fait rien pour lui-même. Il ne veut aucun avantage, il ne veut absolument rien qui puisse être apporté à sa condition, à sa personne. Il ne veut rien, rien qui puisse en aucune manière l'avantager, rien. Il ne veut rien pour lui-même. Deuxièmement, il ne veut rien faire par lui-même, c'est-à-dire sans être uniquement l'exécuteur des œuvres du Père. Et troisièmement, il ne veut rien faire de lui-même, c'est-à-dire en utilisant ses propres moyens, et comme je le disais tout à l'heure, nous pourrions supposer qu'il en avait beaucoup. Eh bien non, il ne veut rien faire en utilisant ses propres moyens humains et en suivant ses initiatives. Alors, ces trois principes nous donnent le mode de service. Le mode de service. Ah, il n'est pas, je le redis encore, si facile qu'on pourrait le croire. Jésus, en observant ces trois principes, a fait la démonstration d'un principe général, un principe divin qui est celui du dépouillement, du renoncement à soi et de la perte de sa vie. Or, c'est cela qu'il enseigne à son Église. C'est cela que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me vive, et il me suive, et qu'il perde aussi sa vie. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui voudra la garder la perdra. Alors ça, c'est l'inverse exactement de la manière humaine, c'est l'inverse de la manière humaine. Alors là, nous sommes là vraiment dans le signe de la contradiction. Un signe, le Seigneur Jésus a dit, le vieux Siméon, sera un signe qui provoquera la contradiction. Nous sommes en pleine contradiction, c'est l'inverse de la manière humaine. La manière humaine, quelle est-elle? Bien, elle consiste à prendre. De tous les côtés, prendre le plus possible, à prendre, à s'avantager, à se hisser au-dessus des autres, à faire triompher ses propres idées. La nature humaine n'est pas contente quand on lui dit, mais non, ton idée, bon, la voilà, c'est bien, mais il y a une idée qui nous paraît meilleure, nous paraît supérieure, on la met au-dessus de la tienne. Ça, c'est difficile à accepter par la nature humaine. Donc, triompher ses propres idées, se faire valoir, en s'appuyant, bien sûr, sur la chair. Voilà ce que fait la nature humaine, la manière humaine, et tout cela, Jésus l'a radicalement écarté. Ainsi, Jésus, je le redis aussi, s'est mis en opposition avec les conceptions humaines et avec les puissances du mal. Il s'est mis en opposition avec elle. Il fut vraiment ce signe qui provoque la contradiction. Le monde, lui, contredit. La manière de Christ contredit l'Évangile, mais l'Évangile vient tout premier contredire la manière et la pensée du monde. Sa vie, son œuvre, sa parole apportent un principe radicalement opposé aux tendances de la chair. Or, quand on exercera un ministère ou que l'on mettra en service le don que l'on a reçu, eh bien, il faudra penser à cela, attention aux tendances de la chair. Ne pas mélanger avec la mise en exercice d'un don, ne pas mélanger les tendances de la chair avec. Il arrive, par exemple, vous n'êtes pas tous habitués à la prophétie, mais moi j'en ai entendu beaucoup de prophéties, surtout que nous avons traversé un temps de réveil. Et la prophétie avait une telle puissance pendant ce temps de réveil je vous dis quelle était mon impression, hein, je n'entendais plus la personne qui prophétisait, je ne reconnaissais même plus, je ne pensais même plus à elle, plus au timbre de sa voix, j'entendais directement Jésus. J'entendais Jésus. Ça peut vous sembler extraordinaire, peut-être, mais c'est cela. N'est-ce pas ? Eh bien, j'ai entendu beaucoup de prophéties. Et j'ai entendu aussi des prophéties ont été malheureusement mélangées. Il arrive, c'est arrivé assez souvent, que des prophéties aient vraiment pris leur départ dans la pensée de l'esprit, que la pensée de l'esprit s'est vraiment exprimée par celui qui a prophétisé, puis celui-là, n'est-ce pas, au lieu de s'arrêter au bon moment, a trouvé bon d'y mêler un petit peu peut-être son enthousiasme seulement, n'est-ce pas, et puis il a continué sa prophétie avec des paroles purement humaines. Et puis il a continué sa prophétie avec des paroles purement humaines, hein, un peu comme c'est arrivé à Pierre, hein, des paroles humaines. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, mais celles de l'homme. Alors ça c'est donc un risque, et si je le dis pour la prophétie, on peut le dire pour l'usage de tout don, et même de la pour la mise en œuvre de la fonction de témoin. Attention d'être vraiment dirigé par l'esprit. Oh, c'est merveilleux quand on est dirigé par l'esprit et qu'on est en présence de quelqu'un que l'on rencontre pas par hasard parce que Dieu l'a mis en face de vous. Bon, alors on lui parle avec l'esprit. On laisse l'esprit vous guider. Les paroles sont sobres. On laisse l'esprit vous guider, mais la tendance qui peut se présenter est celle d'y ajouter notre propre parole à nous, notre propre écho, n'est-ce pas, et alors de prolonger cela, et le bien qu'on a fait avec la parole que guidait le Saint-Esprit, on risque de le défaire avec la parole humaine qu'on va mettre au bout. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se laisser uniquement guider par l'Esprit de Dieu. Ah oui, ça, pouvoir vraiment annoncer l'Évangile sous la direction, la conduite du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour faire œuvre de savants. Nous ne sommes pas des répétiteurs en tant que témoins, nous ne sommes pas des répétiteurs, nous ne sommes pas des avocats. Le Seigneur Dieu n'a pas besoin d'avocats, puis s'il en avait besoin, il en trouverait sans doute d'autres que nous, hein, et ce serait peut-être meilleur. Hein. Il n'a pas besoin d'avocats, il n'a pas besoin de gens qui répètent. Il ne s'agit pas de répéter des versets bibliques, ou de répéter des choses que dont nous avons, nous, la conviction. Et il s'agit d'apporter une parole qui soit celle du moment et que le Saint-Esprit va nous montrer. Peut-être va-t-il nous la montrer dans les Écritures, peut-être va-t-il nous la suggérer directement dans notre cœur. Laissons-le faire, croyons. Nous avons prié avant, n'est-ce pas? Il faut avoir prié avant, et croyons que nous allons pouvoir témoigner ainsi, et c'est alors que le témoignage revêtira une force, une dynamique extraordinaire. Les œuvres que Dieu prépare d'avance pour que nous les accomplissions, vous savez que c'est ça que dit Éphésiens 2:10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, littéralement dans le grec, pour que nous marchions au milieu d'eux. Ces œuvres sont comme les petites... comme le slalom, vous savez, on met des piquets là avec des petits drapeaux et il faut marcher dedans. Eh bien, c'est cette idée-là que nous trouvons dans notre texte. Les œuvres sont préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Ce sont des œuvres de Dieu que nous allons faire. Alors, pour cela, il faut que nous soyons bien conscients que nous avons à travailler sur les mêmes principes que notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a fait le don de sa volonté au Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, la volonté, Jésus a une volonté dans son humanité. Son humanité n'est pas inférieure, elle est dotée de tout ce qui convient à l'humanité. Eh bien, elle dispose d'une volonté, mais Jésus a fait le don de sa volonté au Père, il en a fait, on peut employer plutôt ce terme, il en a fait le sacrifice pour lui-même. Qu'a-t-il dit, en effet, dans Hébreux 10, 6, 7, « Je viens, Seigneur, pour faire ta volonté, ô Dieu, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il a fait aussi un second sacrifice. Il a fait le sacrifice de son obéissance à Dieu. Ou si vous voulez, il a voué son entière obéissance. Nous avons cela dans l'Épître aux Hébreux, toujours Hébreux chapitre 5 et verset 7. C'est un passage important. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, le Fils de Dieu est venu apprendre quelque chose dans l'humanité, apprendre quelque chose de nous, de notre humanité. Ça, c'est paradoxal. Hein? A priori, c'est paradoxal. Comment ? Il est venu apprendre l'obéissance, bien qu'il fût Fils de Dieu, il est venu apprendre l'obéissance dans une humanité telle que la nôtre. Moi, le péché, oh, ça, c'est renversant, mais si, parce qu'il est venu forger, préparer l'homme nouveau qui va sortir, là, au matin de Pâques. Cet homme nouveau, il le prépare, il rétablit l'obéissance à Dieu dans une nature humaine qui est réfractaire depuis la chute. Il rétablit l'obéissance, il a lutté pour ça, non pas seulement à Gethsémané, mais pendant tout le cours de son ministère. Il a lutté pour rétablir cette obéissance. Croyez pas que ça se soit fait tout seul. Il a lutté pour cela. Donc il a fait le sacrifice de son obéissance à Dieu. Alors nous voyons deux sacrifices ici, le sacrifice de la volonté et le sacrifice de l'obéissance à Dieu. Eh bien ce sont ces deux sacrifices, ou si vous voulez ces deux offrandes, ben, si le mot sacrifice vous gêne un peu, disons ces deux offrandes, l'offrande de la volonté et l'offrande de l'obéissance à Dieu, ces deux offrandes caractérisent la sainteté chez l'homme. Voulez-vous être des saints? Eh bien, faites ces deux offrandes et maintenez-les. Maintenez-les. Vous serez saints. Vous serez vraiment les saints de l'Église. Nous serons les saints de l'Église. Voilà, eh bien, chers amis, ce soir, tenant compte de ce que m'a dit notre ami et frère René, je m'arrête.